Bonjour à chacun, chacune. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous la suite des prédications que nous avons prévues pour ce week-end de Pentecôte sur l'Église. Et le titre que j'aimerais donner ce matin, c'est « Jésus-Christ, la plénitude de l'Église ». Et pour illustrer cette déclaration, je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Et nous allons aborder une des sept paraboles que Jésus donna de son vivant sur terre. Une des paraboles qui n'est pas toujours très bien comprise, la parabole des 10 vierges. Et on va lire les 13 premiers versets de cette parabole. Matthieu 25, versets 1 à 13. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » La Bible utilise souvent l'image du mariage pour nous enseigner des réalités spirituelles, comme nous pouvons le constater au travers d'autres passages d'ailleurs. L'amour entre époux s'inspire par exemple de l'amour de Christ pour l'Église, Éphésiens 5, versets 24 et 25. Jean-Baptiste se présente lui-même comme ami de l'époux, c'est-à-dire Christ, Matthieu 9, verset 15. L'invitation aux noces, une invitation de Dieu à ne pas refuser, et un habit sans tache qui donne notre légitimité, dans Matthieu 22, verset 1 à 14. L'accent est mis sur les fiançailles en vue du mariage, dans 2 Corinthiens 11, verset 22. Notre espérance d'un jour, c'est d'être à table avec notre Sauveur, aux noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Il est donc important et facile de comprendre que l'image du mariage pointe diverses réalités et vérités spirituelles. Vous voyez que le mariage illustre énormément de choses. Tantôt, les chrétiens sont représentés par les invités, tantôt par les serviteurs qui invitent et qui accueillent, tantôt par des demoiselles d'honneur, tantôt par les fiancés, tantôt par l'épouse. Tout dépend de la vérité que le texte biblique veut nous enseigner. Alors que veut dire la Bible au travers de cette parabole des 10 vierges? Les interprétations sont multiples. Alors je vais me permettre de vous en citer au moins 3. Et puis je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Augustin disait, au IVe siècle, « Le nombre 5 représente l'âme dans le corps, parce qu'elle utilise les 5 sens. La seule façon de percevoir passe par les 5 sens. C'est pourquoi celui qui renonce à la façon injuste de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher mérite le qualificatif de vierge. Mais il ne suffit pas d'être vierge. Il faut aussi avoir une lampe qui désigne ici les bonnes œuvres. Quand bien même les vierges sages et les vierges folles avaient toutes des lampes, seules les vierges sages avaient de l'huile qui représente l'amour et qui est, d'après 1 Corinthiens 13, la voie par excellence. Plus tard, Martin Luther interprète la parabole de la façon suivante. Les cinq vierges folles furent rejetées, non parce qu'elles ne servaient pas, mais parce qu'elles servaient sans huile, c'est-à-dire sans la grâce de Dieu. Elles s'appuyaient sur leurs propres ressources et non en vertu de la grâce divine. Elles recherchaient leur propre gloire et non celle de Dieu. Richard Trench, au XIXe siècle, disait ceci. La lampe représente ce qui est simplement extérieur dans la vie chrétienne, alors que l'huile représente ce qui est intérieur et spirituel. C'est pourquoi dans la lettre aux Romains, la lampe représente les œuvres de la loi, alors que l'huile représente la foi qui sauve ou justifie. Mais dans l'épître de Jacques, la lampe représente la profession extérieure de la foi, tandis que l'huile représente les œuvres qui procèdent d'une foi authentique. Vous voyez, ce texte est plus complexe qu'il ne le paraît. Néanmoins, beaucoup s'accordent pour dire que cette parabole évoque le retour de Jésus-Christ sur terre. Lors de ce retour, certains entendront cette parole terrible de la bouche même de Jésus-Christ. « Je ne vous connais pas. » Voilà plus de 2000 ans que le Seigneur est monté au ciel. Nous attendons ce retour. Lors de cette venue, il jugera absolument tout le monde. Et dans 1 Pierre 4, versets 17 et 18, il nous est dit « Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Avant de me lancer dans cette interprétation de ce passage, j'aimerais noter quelques détails qui méritent notre attention. Premier détail, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux concerne autant les jeunes filles sages que les jeunes filles folles. Le royaume des cieux bouleversera tout autant la vie des unes comme des autres. Deuxième détail, les jeunes filles avisées comme les insensées s'endorment et sont surprises par la venue de l'époux. Aucune d'entre elles n'ont réussi à veiller. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, nous dit le texte. Comment illustrer cette forme de léthargie ? La question mérite d'être posée. Nos lampes sont-elles en train de s'éteindre ? Troisième détail. Je note une forme d'égoïsme. Étonnant. Pourquoi ne pas partager l'huile ? Pourquoi les filles sages ne proposent pas aux jeunes filles folles qui sont sans huile de leur partager leur huile ? Lorsqu'il s'agit du royaume, chacun répond pour lui-même. Quatrième détail, la parabole ne donne aucune explication en ce qui concerne l'huile. Notons aussi que le problème n'est pas tant le manque d'huile, puisque plus tard les autres vierges arrivent aussi et dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. L'huile n'est utile que s'il est disponible au bon moment. Après l'heure, comme on dit, c'est plus l'heure. » Lors du déluge, plusieurs voulurent entrer dans l'arche de Noé, mais c'était trop tard. L'attente du retour du Christ et l'amour de son retour devraient nous motiver à rester fidèles et pleins d'amour. C'est ce à quoi l'Église se prépare. L'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, disent « Viens ». Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Et j'ajoute maintenant. Et notre texte commence ici. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Dit autrement, lors du retour de Jésus-Christ sur terre, la situation sera semblable à. À quoi ? Là est toute la question et le cœur de cette parabole. Quel sera l'état de l'Église lorsque le Seigneur reviendra ? J'aimerais encore ouvrir une parenthèse pour que nous puissions bien nous imprégner de ce texte. Comment comprendre le mariage dans le sens du contexte de Jésus ? Les fiançailles. Un peu l'équivalent, aujourd'hui, je dirais, de la mairie pour les juifs de l'époque. Le jeune homme désireux de se marier discute avec son beau-père. Et une fois d'accord, il célèbre les fiançailles. Les époux n'habitent pas ensemble, mais si l'un d'eux mourait, il y aurait déjà une procédure de divorce qui devrait être enclenchée. C'est entre autres pour ça que lorsque Joseph veut quitter discrètement Marie, l'ange l'arrête. Leur fiançaille est déjà riche de sens. Une cérémonie. Une fois fiancé, le jeune s'empresse de rentrer chez lui. Il prévient les siens. Certains affirment aussi que le fiancé avait le devoir de construire une maison avant de chercher son épouse. Les noces. Après la cérémonie, tous les convives célèbrent les noces autour d'un repas. C'est la description que nous avons des noces de l'agneau. Le Seigneur a bien déclaré en Jean 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Nous voilà maintenant dans le contexte. Vous avez compris qu'à l'époque, voilà, une fois que les fiançailles étaient prononcées, le fiancé repartait, préparait un lieu où le couple pouvait s'y établir. C'est exactement ce que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Lorsqu'il est parti, il est en train de nous préparer une place. Quand cette place sera prête, il reviendra nous chercher. Alors comment vivons-nous l'Église ? Sommes-nous dans l'attente de Jésus-Christ ? Cette histoire nous révèle que le jour J, avec un grand J, il y aura bien des surprises. J'ai souvenir, avec mon épouse, d'avoir regardé un film sur l'enlèvement de l'Église. Je ne me souviens plus trop le titre. Mais ce qui était intéressant dans l'enlèvement de l'Église, c'est qu'à un moment, en un instant, en un clin d'œil, les frères et sœurs sont enlevés. Et ceux qui n'étaient pas de vrais croyants étaient restés. Et chose incroyable, le pasteur n'a pas été enlevé. Et mon épouse s'est tournée vers moi, elle me dit « Mais ben alors ?»« Mais ben alors, c'est un film !» Oui, mais nous aurons des surprises, mes amis. Ça doit nous faire réfléchir dans notre cœur. L'époux ne se laissera pas berner par les apparences. Écoutez bien, l'époux ne se laissera pas berner par les apparences. Quelqu'un a dit un jour, l'apparence est un rideau derrière lequel on peut faire tout ce que l'on veut. Mais qu'il est essentiel de tirer un jour. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est justement la plénitude de l'Église. Et seuls les véritables croyants bénéficient de cette plénitude. Avant d'entamer encore mon texte, j'aimerais préciser un autre verset qui se trouve dans Éphésiens, qui n'est pas toujours bien compris non plus. Éphésiens 1, verset 22, « Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. » J'ai pris une version ici qui est plus simple, mais si je prenais votre version second, elle serait bien plus complexe. Dans Éphésiens 1, verset 22, il est dit « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Je vous ai tous perdus, j'imagine, là. Qui remplit quoi et à quel moment, si je prends au détail, le mot plénitude dans ce texte, en grec, c'est le mot pléroma qu'on peut interpréter de deux manières, dans un sens actif et dans un sens passif. Dans le sens actif, il s'agit d'un contenu. Si je prenais ici ce récipient, on parlerait de ce qui est dans le récipient. Donc la plénitude, Christ est la plénitude, il est celui qui remplit le récipient. Si l'on prend cela dans le sens passif, Christ est le récipient, et puis c'est l'Église qui remplit le récipient. Vous comprendrez, je l'ai déjà expliqué hier, pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, l'Église n'est pas moyen de salut, mais elle en est le fruit. Et donc aujourd'hui, Christ remplit ce récipient qu'est l'Église et qui manifeste la réalité de ce que nous sommes. Maintenant que nous sommes au clair sur le contexte de cette parabole, que nous avons défini ce que signifie la plénitude, Christ qui remplit ce récipient qu'est l'Église, que nous enseigne cette parabole ? Éphésiens 2, versets 21 et 22. En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, Jésus-Christ, la plénitude de l'esprit. Et comment ça se vérifie ? J'ai terminé mon message hier en vous disant cette citation d'Augustin qui disait « Il y a beaucoup de brebis hors de l'Église et il y a beaucoup de loups en son sein. » Vous noterez que dans cette parabole, toutes sont vierges, seules cinq sont considérées comme sages. Il est difficile d'affirmer que les vierges représentent l'Église car elles ne sont que demoiselles d'honneur et non l'épouse. Il y a un comportement qui les distingue. Certaines sont sages et les autres sont folles. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait ce genre d'affirmation lorsqu'il parle du royaume, de son retour. Il dit « Le royaume de Dieu est semblable à le bon grain et le mauvais grain. » Et il parle de cette parabole qui dit « Au milieu du bon grain, il y a du mauvais grain, soi-disant de vrais croyants et de faux croyants. » C'est une réalité que la Bible semble vouloir nous imprégner. Il y a l'Église telle que je la vois, et il y a l'Église telle que Dieu la voit. Moi, je vois ici des personnes qui sont présentes à l'Église, mais combien d'entre vous sont des vies transformées ? Dieu seul le sait. Vous avez cette parabole du bon et du mauvais poisson que nous pouvons lire dans Matthieu 13, versets 47 et 50. La Bible est claire, parmi nous, il y a de vrais croyants et de faux croyants. Je redis, parmi nous, il y a de vrais croyants et de faux croyants. Ce n'est certainement pas à nous de les identifier. Dieu seul connaît les cœurs. La connaissance de l'Évangile n'est pas la preuve du salut. Et j'imagine que le diable lui-même connaît parfaitement son catéchisme. Pratiquer des rites chrétiens tels que le baptême ou la scène, fréquenter occasionnellement ou fréquenter fréquemment l'Église, avoir son nom inscrit sur le registre des membres d'une Église, maîtriser le langage évangélique et ses codes, participer financièrement aux frais engagés par l'Église n'est de loin pas la preuve que vous vivez la plénitude de Christ et que vous êtes un enfant de Dieu. De loin pas. On raconte l'histoire d'un homme qui est rentré un jour du travail. Il a trouvé sa femme complètement secouée et bouleversée. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Et sa femme lui dit « Une chose étrange m'est arrivée aujourd'hui. Un homme a frappé à la porte et quand j'ai ouvert, c'était un étranger. Il m'a dit « Madame, est-ce que vous connaissez Jésus ?» J'ai été choqué par sa question. Je n'ai pas su quoi lui dire alors que je lui ai refermé la porte au nez. Son mari fut étonné et dit à sa femme, « Mais chérie, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu chantes à la chorale de l'église tous les dimanches, que tu présides, que tu es la présidente du groupe des femmes dans notre église? Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'à chaque Noël, tu collectes des jouets pour les enfants défavorisés de la ville? Pourquoi tu ne lui as pas dit tout cela ?» Elle lui a répondu, « Ce n'est pas ça qu'il m'a demandé. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. » Ce sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez vivre toutes sortes d'activités dans l'Église, mais avez-vous la plénitude de Christ dans votre vie? Toutes ont des lampes, seules cinq d'entre elles ont de l'huile. Elles avaient toutes des lampes. Si je posais la question ce matin, combien êtes-vous à posséder une Bible? Je suis persuadé que la plupart d'entre vous lèveraient la main. C'est bien, mais le Sauveur de l'Évangile est-il entré dans votre vie? L'avez-vous reçu pour votre Sauveur personnel? Faites-vous chaque jour avec lui la route de votre existence? Dans 2 Corinthiens, verset 13:5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Je vous redis ce verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-il en vous? Êtes-vous sauvé? Christ en vous, lit-on dans la Bible, l'espérance de la gloire. Si je vis, insiste l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Souvenez-vous du pléroma. Nous sommes, nous l'Église, le contenant et Jésus-Christ devient le contenu. Jésus-Christ est la plénitude de l'Église, il nous remplit. L'huile est ce liquide essentiel pour que la lampe fonctionne. Sans huile, les lampes sont inefficaces. C'est parce que les sages en ont qu'elles ont pu rentrer dans la salle des noces. C'est parce que les folles n'en avaient pas qu'elles restèrent au dehors. Une lampe sans huile, c'est comme une torche sans pile, c'est comme une ampoule sans électricité, c'est comme une voiture sans batterie. Ça ne marche pas. C'est sans puissance, sans énergie. Les jeunes filles insensées ressemblent aux jeunes filles qui sont sages. Toutes sont demoiselles d'honneur. Toutes ont une lampe. Toutes attendent le même événement. Et pourtant, l'unique chose qui les distingue, c'est le fonctionnement des lampes. Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les faux chrétiens se caractérisent justement par une forme extérieure dépouillée d'une réalité intérieure. Il y a un contenant, mais il n'y a pas le contenu. Ils ne peuvent pas vivre une foi puissante qui transforme toute une vie. Dans 2 Timothée 3:5, il est dit « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. » Quelle déclaration terrible! Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Jésus nous montre ici deux sortes de vie spirituelle. La démarche spirituelle de certains est vide. La foi véritable n'est pas creuse, vide et éteinte. Souvenez-vous de ce que Jésus a affirmé à cette femme samaritaine. Je te le dis, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein jusque dans l'éternité. Est-ce que nous sommes des millionnaires qui s'ignorent? Vous savez, il y a des gens, on raconte des histoires de personnes qui sont tellement avares, ils ont des millions dans leur compte en banque, mais ils vivent comme des pauvres. Nous sommes riches en Christ. Lorsque nous lisons tout le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, nous voyons toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Sommes-nous de pauvres chrétiens, de pauvres enfants de Dieu, alors que notre roi nous a donné abondamment tout ce qui était nécessaire pour nous? Jésus nous montre ici deux sortes de vie spirituelle. Si quelqu'un ici ce matin excuse son péché plutôt que de l'admettre, se dit chrétien sans changement de vie, croit en Jésus sans vouloir lui ressembler, vient à l'Église sans participer à sa croissance, vit dans le péché sans être repris dans sa conscience, mes amis, posez-vous une sérieuse question. As-tu un contenant dépouillé de ce fameux contenu? La question est sérieuse, parce que lorsque le Seigneur reviendra, Jésus ne se laisse pas berner par les apparences. Vous pouvez tromper des hommes, vous pouvez tromper votre pasteur, mais vous ne tromperez pas Jésus, parce que Jésus, c'est la plénitude de l'Église. C'est lui qui en constitue le contenu. Troisième chose, toutes attendent l'époux, mais seuls 5 participent aux noces. Les 10 sont dans l'attente, mais dès le départ, avant même que l'on constate le manque d'huile, il y avait un problème. On résume souvent cette parabole en disant le problème entre les vierges folles et les vierges sages, c'est le manque d'huile. C'est faux. Le problème est déjà au début du chapitre. 5 d'entre elles étaient folles, dès le départ. J'ai entendu un jour un prédicateur dire, mais vous voyez, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont accepté Christ dans leur vie et qui n'ont pas persévéré dans leur foi, ils ont perdu leur salut. Voilà. C'est faux. Ce texte ne dit pas du tout une telle déclaration. Il est plutôt en train de dire, dès le départ, il y a un problème. Elles étaient folles dès le départ. Dès le départ, leur rencontre avec l'époux était compromis. Et le problème de beaucoup, c'est qu'ils n'ont jamais eu de véritable conversion. Jamais. Ils n'ont jamais eu de cette huile. Ils n'ont jamais vécu une véritable repentance. Peut-être que la faute nous revient aussi. Parce que nous annonçons peut-être un évangile qui n'est pas précis. Jésus t'aime, Jésus veut te bénir. Est-ce que tu veux accepter quelqu'un qui t'aime et qui veut te bénir? Lève la main. Et puis, il y a des gens qui lèvent la main. Oui, moi je veux bien de quelqu'un qui m'aime et qui veut me bénir, qui veut me faire du bien. Oui, on lève la main. Oui, mais peut-être qu'il faudrait rajouter. Mais tu sais, croire. Parce qu'on annonce souvent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais croire, mes amis, derrière ce mot, il y a une réalité qu'il faut absolument expliquer. Croire, c'est recevoir. Recevoir, c'est devenir. Je reçois la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a une relation personnelle. Croire, c'est recevoir. Et quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens quelqu'un d'autre. Je suis de loin pas quelqu'un de parfait, je vous assure. Et si vous aviez l'occasion de vivre au quotidien avec moi, vous pourriez voir beaucoup de défauts et vous auriez vite vu que je suis de loin pas un saint au sens strict du terme. Mais je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis ce que je suis, comme disait l'apôtre Paul. Mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, si vous m'aviez connu avant. Ma vie a changé. Elle est de loin pas parfaite, mais je ne suis pas le même Luciano qu'avant, ça je peux vous garantir. Comme dit l'apôtre Paul, je suis ce que je suis, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Pourquoi? Mais parce que ce contenant n'est pas vide. Cette enveloppe n'est pas vide. Cette enveloppe, elle est remplie par la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la plénitude de l'Église. Peut-être qu'ils ont fait une démarche, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas reçu la vie qui nous vient du Christ. En attendant, avec les sages, le retour de l'époux, mais dès le départ, elles n'ont pas pris au sérieux le message de la croix. Il ne suffit pas de connaître Dieu dans sa vie, mais que lui te connaisse. Il ne suffit pas d'espérer rencontrer le Christ un jour. C'est aujourd'hui déjà que cette rencontre s'opère. Il ne suffit pas d'adhérer à un concept ou à une pratique, mais d'aimer ton Sauveur et de vivre pour lui. Il ne suffit pas de dire que tu as la foi si tu n'es pas rempli de vie. Il ne suffit pas de faire le vide dans sa vie, mais de faire le plein. Aujourd'hui, toutes sortes de religions orientales vous invitent à faire le vide. Faites des séances de yoga pour faire le vide, pour trouver la paix. Mais vous savez quoi ? L'Évangile ne vous invite pas à faire le vide. Le Seigneur, il veut vous remplir. Il ne dit pas de vous vider. Je veux vous remplir de ma présence dans votre vie. Ce qui est totalement l'opposé de ce qui est présenté dans ces mouvements-là. Toutes attendent l'époux, mais seuls 5 participent aux noces. C'est une folie d'attendre le retour de Christ dans cet état, quand on n'a pas l'essentiel. « Donnez-nous de votre huile !» s'écrient les folles vers les sages. Je vais vous choquer, mais vous savez, j'ai envie de dire, folles elles sont et folles elles resteront. Même à ce moment-là, elles n'ont toujours pas compris que la foi, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose de personnel avec Christ, une relation. L'Église, avec toute sa richesse spirituelle, ne remplace pas mon expérience personnelle. La déclaration finale de ce passage, « Je ne vous connais pas ». Les vierges insensées, religieuses de tradition, tièdes de cœur, car imbues de leur qualité de membres du peuple de Dieu, n'ont jamais cherché une vraie relation personnelle avec lui. Après lui avoir trop longtemps fermé la porte de leur cœur, elles voient arriver le moment où, pour elles, la porte de la grâce se ferme à son tour. Dans Éphésiens 4, 9 et 10, il nous est dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, écoutez bien, afin de remplir toutes choses. » Afin de remplir toutes choses. J'espère que vous avez pu comprendre qu'il est important pour nous d'être remplis de la présence du Christ. Nous sommes des contenants, il est le seul contenu. Amen.